Place Info.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Dans plusieurs villes, dont Paris, on a assisté dimanche à des concerts improvisés dans la rue à l'occasion de la fête de la musique, parfois sans masque, parfois sans respect des barrières sanitaires. Est-ce qu'il fallait maintenir cet événement et dans ces conditions ?
Oui, je crois qu'il fallait que la vie reprenne et tous les jeunes et tous les enfants, on le voit, sont heureux aujourd'hui de pouvoir sortir. Après, les images que nous avons vues ne sont pas représentatives de tout ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de fêtes où les gens ont gardé leur distance de sécurité. Je crois qu'il faut en appeler régulièrement à la responsabilité de chacun. Et notamment la responsabilité individuelle. Les mesures barrières, elles sont faites pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Et ce qui compte aujourd'hui le plus dans ce virus, c'est de garder la distance physique.
Ce qui n'a pas été le cas pendant ces rassemblements. Quand vous voyez que des pays comme le Portugal, la Corée du Sud, l'Australie reconfinent tout ou partie de leur population, est-ce que ce qui s'est passé dimanche n'est pas en quelque sorte une insulte aux soignants ?
En tous les cas, je pense que ça agace beaucoup les soignants et ça les inquiète. Je pense que tous les soignants, comme moi, sont inquiets et regardent attentivement ce qui se passe dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que des pays qui semblaient indemnes ont tout d'un coup des vagues. C'est le cas en Allemagne tout récemment dans un abattoir où ils ont été obligés de confiner une ville, je crois. Voilà, on voit bien que cette épidémie n'est pas finie, qu'elle peut revenir et que c'est l'attention de chacun aux mesures barrières qui permettra de vivre le plus normalement possible dans les mois et les années qui viennent.
Renaud Dely.
Et en même temps, on voit bien, Agnès Buzyn, ce que vous disiez à l'instant, qu'il y a des phénomènes qui sont imprévisibles, c'est ce que vous dites. Il y a parfois des retours de l'épidémie par endroit. Vous serez amené à témoigner devant la commission d'enquête dès la semaine prochaine, après l'élection municipale. C'est ce que vous allez dire lorsque vous serez entendu, que personne ne pouvait prévoir de fait l'ampleur de l'épidémie ?
Vous me permettrez, Monsieur Dely, de garder mes propos pour la commission d'enquête.
C'est une audition qui sera publique ?
Oui, bien sûr.
Oui. Vous avez fait le choix, Agnès Buzyn, de retourner travailler à l'hôpital après le premier tour de l'élection municipale à Paris. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas encore ?
D'abord, j'ai été très impressionnée, vraiment, par la difficulté du travail des infirmières pendant le Covid. En tant que médecin, je passais quelques heures, ou une heure ou deux heures, à faire la visite dans la salle avec les patients. Les infirmières, elles sont présentes 8 heures d'affilée, parfois même 12 heures d'affilée, avec des tenues très difficiles à porter, puisqu'il fait très très chaud sous ces blouses, ces surblouses, ces masques, ces visières. Et franchement, aujourd'hui, j'ai envie de leur rendre hommage, parce qu'elles font un travail vraiment extraordinaire avec la difficulté que l'on connaît dans leur vie quotidienne.
Quand vous avez entendu Emmanuel Macron, lors d'une visite à l'hôpital, dire, faire en quelque sorte son mea culpa en disant on n'a pas fait assez vite, ça visait votre plan pour l'hôpital, qu'est-ce que vous avez pensé ?
Je ne peux que me réjouir qu'on aille plus vite et plus loin.
Ça veut dire que vous n'avez pas été entendu quand vous étiez ministre ou que vous-même, vous n'aviez pas pris la mesure de ce qui régnait à l'hôpital ?
Non, je crois que tout le monde a pris la mesure et tout le monde savait qu'il y avait un effort particulier à faire pour l'hôpital public. J'ai commencé à changer de braquet puisque après des années et des années de baisse de budget, j'avais réaugmenté les budgets hospitaliers. J'avais fait un plan d'investissement massif dans l'hôpital, mais on peut refaire l'histoire. Les contextes budgétaires n'étaient pas celui-là, donc voilà.
Qu'est-ce qui explique Agnès Buzyn que ce soit aussi long justement ? Qu'est-ce qui explique Agnès Buzyn que ce soit aussi long ? Vous êtes heurté effectivement à un mouvement à l'hôpital pendant des mois. Vous aviez vous-même présenté des mesures à plusieurs reprises. Le gouvernement est amené maintenant à ouvrir un nouveau cycle de discussion, le Ségur de la santé. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne réussit pas, que ce soit avec vous ou après vous, à répondre à cette colère des soignants ?
Alors, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets mélangés. Et donc, on prend le mouvement de l'hôpital public comme un mouvement unique. En réalité, nous avons eu d'abord un mouvement sur les urgences qui avait des problèmes particuliers, qui était le lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, les lits d'aval. Donc, il a fallu résoudre un problème vraiment spécifique au niveau des urgences. Et puis, il y a eu un mouvement plus général vis-à-vis de l'investissement dans l'hôpital public et auquel j'avais commencé à répondre par un plan qui se mettait en œuvre au mois de janvier. Et en réalité, il y a un sujet sur lequel nous n'arrivons pas, en fait, à trouver une solution rapidement. C'est le manque de médecins. Et en fait, tout le monde souffre d'un excès de travail par manque de médecins. Et ça, vous le savez, pour former un médecin, il faut parfois, enfin, il faut 10 ans. Et donc, j'ai ouvert, je suis la ministre qui a supprimé le numerus clausus, donc cette fameuse limitation du nombre de médecins en formation.
Mais ça changera rien encore avant plusieurs années.
Mais ça changera dans quelques années. Et cette tension-là, sur l'hôpital comme sur la médecine de ville, elle va durer.
Ça fait 4 mois maintenant que vous avez remplacé Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Vous êtes arrivé en 3e position lors du premier tour, distancé assez nettement par la maire sortante Anne Hidalgo. Ça vous fait sourire. Et par Rachida Dati pour Les Républicains. Les sondages aujourd'hui, même si pour Paris, ils n'ont qu'une valeur indicative puisque l'élection se fait dans chacun des 17 secteurs, vous donnent sous la barre des 20%. Est-ce que vous pensiez, Agnès Buzyn, que ce serait aussi dur que ça?
Je savais que ça allait être très difficile.
Reprendre... À ce point-là?
Alors, on m'a toujours dit qu'une campagne municipale était une campagne très rude. Et donc,
vous avez pu le vérifier, là.
J'ai pu le vérifier. Faire campagne en un peu plus de 3 semaines, c'est très compliqué quand les gens se sont installés dans le paysage pendant des années. Et puis, Mme Dati et Mme Hidalgo sont des élus de Paris depuis des dizaines d'années. Donc, elles ont évidemment une place dans ce paysage parisien qu'il est difficile de rattraper en 3 semaines. Après, le programme n'était pas exactement celui que j'aurais écrit en tant que candidate.
Donc, c'est-à-dire que vous avez récupéré une partie du programme de Benjamin Griveaux et vous en avez rayé certaines mesures.
Je l'ai modifié, j'ai rajouté notamment des mesures sur les solidarités, sur l'enjeu notamment du maintien à domicile des personnes âgées, parce que c'est un vrai sujet à Paris. Il y a énormément de personnes âgées isolées et le Covid a renforcé cet isolement. Donc c'est plus que jamais nécessaire.
C'est-à-dire que vous n'avez pas eu les mains entièrement libres au début de la campagne.
Vous savez, quand vous devez imprimer un programme le jeudi et que vous arrivez en campagne le lundi et que vous imprimez les tracts 3 jours après, vous ne réécrivez pas un programme
un
qui
improvisé.
A été conçu.
Non, de fait, c'était une campagne un petit peu improvisée.
Le programme était rédigé. Benjamin Griveaux et les équipes avaient travaillé sur le terrain avec des groupes de travail qui avaient fait monter des propositions. Mais avec ma sensibilité de médecin et d'ancienne ministre des Solidarités, j'ai souhaité y mettre plus de solidarité et plus d'écologie. Parce que je suis fondamentalement convaincue que l'écologie n'est pas doit être aujourd'hui une exigence de tous les jours.
Et qu'Anne Hidalgo n'en a pas le monopole ?
Personne n'en a le monopole. Et je trouve, en réalité, je trouve ça même assez choquant quand on sait ce qu'elle a fait de Paris ces 6 dernières années, en termes de construction, en termes de bétonnage, en termes de places bitumées, en termes de végétalisation de la ville, où on n'a pas d'arbres plantés, on a des pots de fleurs dans toutes les rues. Et ça ne répond pas à l'enjeu du changement climatique. Donc moi, je le dis, j'ai une vision écologique pour Paris, évidemment, mais d'une écologie qui n'est pas la décroissance, parce que je pense qu'on a aussi un enjeu de vie économique. Mais j'ai une vision de ce que doit être la ville de Paris pour la préparer au changement climatique, comme n'ont pas mes deux autres concurrentes.
On va poursuivre cet entretien avec vous, Agnès Buzyn, si vous voulez bien, dans 1 minute, juste après le Fil Info, à 8h41, avec Jean-Christophe Martin.
Un casse-tête de moins dans les entreprises. Le gouvernement s'apprête à alléger le protocole sanitaire dans leurs locaux. La fin de la règle est des 4 mètres carrés d'ici quelques jours. Elle sera abandonnée. 1 mètre suffira. Il a crié 7 fois « j'étouffe » aux policiers qui le plaquaient au sol. C'est ce qui ressort d'un rapport d'expertise que France Info a pu consulter dans l'enquête sur Cédric Chouvia, ce livreur mort à Paris en janvier dernier après un contrôle routier. Il a perdu connaissance, il est mort 2 jours plus tard à l'hôpital. Après des mois d'audience au procès fleuve du Mediator, c'est l'heure des réquisitions ce matin contre les laboratoires Servier et l'Agence française du médicament jugée à Paris dans ce scandale sanitaire. Et la Chine va se passer du GPS américain. Elle vient de lancer le tout dernier satellite de son propre système de guidage, la pièce qui manquait en orbite pour couvrir le monde entier. Pékin va donc pouvoir se passer de la technologie américaine.
France Info. Et tout est plus clair.
Agnès Buzyn, dans plusieurs grandes villes, les Républicains et la République en marche ont fait alliance ensemble, ont même parfois fusionné leurs listes. C'est le cas à Strasbourg, c'est le cas à Lyon. Pourquoi ça n'a pas été le cas avec Rachida Dati à Paris ?
Parce que je souhaitais que la voix du gouvernement soit entendu et existe à Paris. Nous sommes la majorité présidentielle. Nous défendons le bilan du gouvernement et du président de la République. Nous préparons également l'élection présidentielle à venir. Et je n'avais aucune envie de faire une alliance avec une droite qui est une droite conservatrice à Paris. Je rappelle le positionnement de Madame Dati sur un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur, notamment sur les sujets LGBT et la PMA que j'ai portée au Parlement avec la loi de bioéthique. À un moment, il y a quand même une différence de valeur fondamentale entre cette droite très conservatrice. Madame Dati a soutenu Sens commun pendant la manif pour toutes. Vous le savez, elle n'a pas voté contre, en tous les cas, en faveur de l'interdiction des thérapies de conversion au Parlement européen.
Elle s'est abstenue.
C'est quelque chose
ce jour-là, lors du vote, en expliquant que c'était une décision qui, pour elle, était du ressort des pays et pas de l'Europe.
Vous trouvez que c'est une excuse pour voter contre ?
Sincèrement,
c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Ces jeunes gens, ces jeunes hommes qu'on soumet à des traitements indignes.
Rachida Dati, c'est la droite dure. Plus dure, par exemple, que celle de Laurent Wauquiez, avec qui Gérard Collomb a signé un accord à Lyon.
Et moi, je laisse Monsieur Collomb prendre ses responsabilités à Lyon. En tous les cas, moi, c'est une alliance que je n'ai pas souhaitée. Je pense qu'il y a une place pour une autre alternance.
Il n'y a jamais eu de tentative entre vous ?
Jamais.
Il n'y a pas eu d'appel ?
Jamais. Je l'ai tout de suite dit. Et je l'ai dit en partant en campagne. Je ne suis pas venue faire campagne pour Paris pour m'allier avec cette droite conservatrice. Et je l'ai dit, je ne voterai ni pour Madame Dati, ni pour Madame Hidalgo au Conseil de Paris.
Et comment vous expliquez alors, Agnès Buzyn, que certaines de vos têtes de liste, on pense par exemple à Florence Berthoux, la maire sortante du 5e arrondissement, elle a décidé de rejoindre Rachida Dati pour le 3e tour.
Elles se sont simplement, des membres de la liste LR, ont rejoint la liste de Madame Berthoux sur un projet d'arrondissement. On n'est pas sur des valeurs fondamentales.
Ouais. Donc c'est pas aussi incompatible que ça.
Mais ça n'est pas du tout pareil de faire une alliance de partis, une alliance de gouvernance et une alliance pour siéger à un conseil d'arrondissement, vous me permettrez de dire que ça n'est quand même pas du même niveau qu'une alliance d'appareil.
Mais votre tête de liste dans le 5e arrondissement, Madame Berthoux, elle va voter pour Rachida Dati lors de l'élection du maire.
Elle va voter pour moi.
Vous en avez la certitude ?
Ah oui.
Vous disiez que vous portiez la ligne du gouvernement, que vous-même, que cette campagne, elle contribue aussi à participer, à préparer la présidentielle. Vous venez de dire ça. Ça veut dire que c'est un peu un test pour le gouvernement, cette élection municipale à Paris?
Je veux le dire à tous les électeurs qui ont envie de soutenir le président de la République et qui pourraient être tentés par un pseudo-vote utile. Je pense qu'il faut faire très attention, que ce soit Madame Dati ou Madame Hidalgo. Ce sont des opposantes forcenées à la politique gouvernementale. Dès qu'elles peuvent dire du mal, elles disent du mal. Et donc, donner des voix, soit Madame Dati, soit Madame Hidalgo, renforce les oppositions au gouvernement et au président de la République.
Vous avez eu des signes de soutien d'Emmanuel Macron dans cette campagne ?
Bien sûr.
Oui. Des signes publics, des signes privés ?
Privé, le président de la République
prend rarement. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas nous.
Enfin. Mais voilà, le président de la République est au-dessus évidemment de cette campagne. C'est normal.
Il vous soutient et il vous demande de continuer coûte que coûte.
Vous me permettrez de rester discrète sur mes conversations avec le président de la République, mais oui, il me soutient.
Vous en avez la certitude.
Oui. Oui.
Et ça signifie, Agnès Buzyn, que si vous n'étiez pas élue maire de Paris, en revanche, ça apparaîtrait aussi comme un désaveu, en tout cas une contestation de la ligne du gouvernement.
Et tout le monde s'accorde à dire que j'ai repris une campagne dans dans un moment particulièrement difficile. Je suis arrivée en l'espace d'un week-end pour reprendre une campagne à la suite du départ de Benjamin Griveaux. Vous le savez que ça n'est quand même pas fréquent de reprendre une campagne et une tête de liste à 3 semaines et demie d'une élection.
C'était devenu ingagnable à ce moment-là.
Non, rien n'est jamais ingagnable. Il faut de la mobilisation, il faut convaincre. Mais bon, le contexte à la fois sanitaire avec cette crise qui est quand même une prime au sortant puisque les maires ont été très actifs sur le terrain et tant mieux. Mais c'est une forme d'exposition d'un maire au moment d'une crise sanitaire. Et d'ailleurs, je me suis interdit de critiquer l'action de Madame Hidalgo. Je n'ai pas fait campagne pendant la période de crise. Donc, je trouve ça plus correct parce que l'enjeu sanitaire pour moi est au-dessus de l'enjeu politique. Donc, je n'ai rien dit pendant la crise. Il y avait des choses bien et des choses pas bien. Mais je n'en ai pas profité pour faire campagne, mais de fait, les maires ont été très présents. Et donc, c'est une prime au sortant dans toutes les villes.
Et vous faites une proposition, d'ailleurs, pardon, pour sortir de la crise, et notamment de la crise économique et sociale qui débute après la crise sanitaire, c'est celle de permettre aux commerçants de décaler leurs horaires, de travailler plus tard dans la capitale. Donc, voici ce que répond Anne Hidalgo, qui était notre invitée ici même à votre place il y a quelques jours.
Je ne suis pas sûre que la ville devenant un grand marché 24 heures sur 24 soit le modèle auquel les Parisiens aspirent. Donc, et puis c'est pas très sérieux de proposer ça, alors que le sujet c'est que les commerces ne ferment pas rideau.
Vous voulez faire de Paris un grand centre commercial ouvert 24 heures sur 24 ?
En tous les cas, comme Madame Hidalgo, je ne veux pas faire de Paris un musée où il n'y a plus de Parisiens et que des touristes. En réalité, on a un vrai sujet de crise économique devant nous. La crise risque de frapper Paris plus durement que le reste de la France. Les commerçants sont sur le fil du rasoir, les artisans sont sur le fil du rasoir, ils m'en parlent tous les jours. Les mesures du gouvernement étaient très appréciées parce que c'était très réactif et très utile, mais les mois qui viennent vont être compliqués. Or, ce que oublie Madame Hidalgo, et j'en suis vraiment surprise, c'est que nous allons devoir maintenir la distanciation sociale. Et pour cela, l'élargissement des horaires d'ouverture permet aussi de désengorger les transports en commun aux heures de pointe, parce que ça permet de décaler les horaires des gens qui viennent travailler à Paris ou qui vont bouger dans Paris. Ça permet aussi aux personnes qui ne veulent pas rencontrer trop de monde dans les commerces de trouver des heures où il y a moins de personnes qui viennent acheter. Je pense notamment aux soldes, qui sont une période qui m'inquiète parce que il y a afflux évidemment de personnes dans les boutiques. Et puis ça va permettre à notre jeunesse peut-être de trouver des emplois le soir, le week-end. Nous savons comme les jeunes vont être impactés, et ils le sont déjà, parce que les stages ont été supprimés, parce que l'entrée dans le marché de l'emploi va être catastrophique. Et donc, ça va permettre aussi à ces jeunes d'avoir un peu de travail. Donc, l'élargissement des horaires d'ouverture, je l'ai dit, c'est pour un an. C'est une expérimentation, nous l'évaluerons, mais c'est pour répondre à la crise. Madame Hidalgo fait comme s'il n'y avait pas de crise économique. Elle n'a pas modifié son programme.
Avec des salaires majorés pour ceux qui travailleraient en dehors des ouvertures,
oui,
des
horaires normaux
et le week-end, même salaire qu'en semaine si on travaille le dimanche matin, par exemple.
Tout ça se discute avec les syndicats. Je suis pas là pour faire travailler, comme certains se moquent, des caissières plus longtemps. Ça n'est pas l'objet. L'objet, c'est que nous allons avoir une crise majeure, que nos commerçants vont fermer le rideau, que si la crise sanitaire se poursuit et que nous avons une infection qui persiste dans les mois qui viennent, la distanciation physique va devoir perdurer. Et donc, nous savons qu'il faut trouver des solutions dans l'année pour faire en sorte que Paris ne soit pas un désert. Les familles s'en vont, les Parisiens vont, parce que c'est plus facile de se confiner à la campagne qu'à Paris. Le télétravail rend cela possible, et nous voyons bien que la ville se vide. Madame Hidalgo n'en a pas pris du tout la mesure, et je suis assez troublée. J'ai une candidate à droite qui n'a pas pris la mesure du changement climatique, et j'ai une candidate à gauche qui n'a pas pris la mesure d'une crise économique.
Et pourtant, vous êtes à 18% dans les sondages.
C'est
injuste.
C'est pour ça que je viens vous répondre, monsieur Fauvel.
Vous restez avec nous, Agnès Buzyn. On va parler des transports, si vous voulez bien, dans quelques instants. Ce sera juste après le Fil Info à 8h50 avec Jean-Christophe Martin.
Après l'annonce de la suppression de la moitié des quelques 800 emplois du site Nokia de Lannion dans les Côtes-d'Armor, la réponse de l'intersyndicale à l'appel à un rassemblement ce matin sur le site pour dénoncer ce qu'elle appelle la trahison de la direction. Un casse-tête de moins dans les entreprises, le gouvernement s'apprête à alléger le protocole sanitaire, la règle des 4 mètres carrés va être abandonné, 1 mètre carré va suffire. Le gouvernement va aussi compléter le dispositif pour aider Air France à sortir de la crise. Aucune autre compagnie ne pourra reprendre les lignes intérieures abandonnées par Air France, toutes celles qui sont à 2h30 de train. C'était l'une des contreparties écologiques au plan d'aide de 7 milliards d'euros. Et attention, cette image est trompeuse. Google va ajouter un nouvel avertissement sur les résultats des recherches, mesures supplémentaires pour lutter contre la désinformation.
France Info. et tout est plus clair.
Agnès Buzyn, Anne Hidalgo a promis que si elle est réélue pour un second mandat à Paris, elle généraliserait les 30 km/h quasiment partout dans les rues de la capitale. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Une excellente idée. Elle l'avait portée en 2014 et elle ne l'a pas fait au bout de 6 ans, donc elle le repromet en 2020.
Une excellente idée qui, du coup, est aussi dans votre programme ?
Non, je ne l'ai pas reprise parce que ça devait être fait.
Donc, mais ça ne l'a pas été. C'est le cas aujourd'hui dans la moitié des rues de la capitale.
Mais c'est une excellente idée parce que ça réduit la pollution, ça fluidifie quelque part. On sait très bien quand on ralentit, en fait, on fluidifie les flux, et parce que ça supprimera un certain nombre d'accidents de la voie publique. Donc c'est une excellente mesure, mais elle l'avait déjà promise en 2014.
Et elle promet aussi le périphérique à 50 km/h d'abaisser la limitation de vitesse à 50 km/h sur
alors
le périphérique.
Alors là, je pense que c'est une mauvaise mesure.
Pourquoi ?
Parce que pour le coup, le périphérique est un... Il y a beaucoup moins d'accidents que sur la voie publique, notamment avec aujourd'hui la problématique des flux de vélos qui croisent les flux de voitures. Donc on voit bien à quel point c'est dangereux. Le périphérique n'a pas tout à fait ni le même objet, puisque ça, c'est une voie rapide, entre guillemets.
Extrêmement polluante en même temps.
Oui, mais le périphérique transporte 1 million de personnes. Et c'est ce million de personnes qui passent par le périphérique tous les jours, ce ne sont pas des gens qui vont simplement jouer au golf. Ce sont des gens qui vont travailler, qui ont besoin de leur voiture. Donc aujourd'hui, moi, je suis très, très favorable, plutôt que d'interdire les voitures ou de supprimer des places de parking ou de trop réduire la vitesse sur le périphérique, je suis favorable à ce qu'on modifie le parc de voitures vers des voitures électriques. C'est ce que fait l'État et le gouvernement avec le plan d'aide à Renault. On voit très bien aujourd'hui que les voitures hybrides sont achetées par les Français. C'est plus de 80% des ventes. Donc, favorisons coûte que coûte le passage à l'électrique pour réduire l'empreinte carbone, mais n'interdisons pas, ne rendons pas impossible la vie aux gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler ou pour vivre, parce que, je le rappelle, le vélo, c'est une forme de discrimination. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui aimeraient faire du vélo et qui, pour des raisons physiques, ne le peuvent pas. Donc attention à permettre à chaque citoyen à Paris de trouver son mode de transport. Ça peut être le bus, ça peut être le métro, ça peut être des voitures individuelles. Passons tout à l'électrique. Ça, c'est l'urgence, plutôt que d'interdire.
Si vous êtes élue maire de Paris, Agnès Buzyn, est-ce que vous changerez le nom de certaines rues, notamment celles qui rendent hommage à des personnalités liées à l'histoire coloniale de la France ?
Alors, le changement de nom des rues peut exister. On a besoin de baptiser des rues avec des gens qui ont fait des choses dans les années récentes, évidemment. Donc, c'est quelque chose de dynamique. Cependant, je n'aime pas cette idée d'effacer l'histoire. Je trouve que nous prenons là un virage qui m'inquiète. Le président de la République a été très clair sur justement les valeurs républicaines, à la fois qu'il faut défendre impérativement et lutter contre ce racisme qui existe, il ne faut pas le nier de façon volontariste, et pour autant ne pas nier ses pans, y compris noir de notre histoire, parce que ça permet aussi d'éduquer. Et donc, attention à cette volonté de nier l'histoire, d'effacer l'histoire. D'ailleurs, je remarque que dans les alliances qu'a Madame Hidalgo à gauche, il y a des alliances avec des personnes de sa majorité qui soutiennent les thèses indigénistes et séparatistes et communautaristes. Je pense aux communistes et aux verts, qui se montrent souvent dans des manifestations très limite. Je pense notamment à la manifestation du 10 novembre dernier qui était contre Charlie, en réalité anti-Charlie. Donc ce sont des manifestations anti-républicaines. Et là, je trouve que Mme Hidalgo n'est pas claire. Moi, je suis claire. Si je suis élu maire de Paris, aucun de mes collaborateurs n'ira à une manifestation indigéniste. Je ne financerai pas des associations qui aujourd'hui ont un discours pas clair, n'est pas le cas à la mairie de Paris, puisqu'un certain nombre d'associations de quartier, aujourd'hui avec des discours indigénistes et communautaristes, sont financées par la mairie.
Et si vous êtes maire de Paris, l'avenue Bugeaud, à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous parlons ce matin, qui rend hommage au général qui a massacré des milliers de musulmans en Algérie au milieu du 19e siècle, continuera à porter son nom.
Franchement, je découvre, je n'avais pas du tout fait attention à qui était Monsieur Bugeaud, donc je découvre aujourd'hui. Je pense que ce serait très intéressant, en tous les cas, que à chaque fois qu'il y a sur un nom une histoire aussi sombre, qu'il y ait une plaque qui explique. Parce qu'effectivement, ce qui n'est pas supportable, c'est qu'on en fasse l'éloge sans en faire la critique. Donc je ne connais pas du tout l'histoire de M. Bugeaud, je ne sais pas pourquoi il a eu une rue à son nom, mais en tous les cas, je suis favorable à ce qu'on ne réécrive pas l'histoire, mais qu'on l'explique et qu'on voilà, qu'on permette le sens critique.
Renaud Delis.
Vous évoquiez les écologistes alliés d'Anne Hidalgo. Le chef de file écologiste David Belliard s'est notamment affiché aux côtés d'Assa Traoré. On sait qu'il y a eu des manifestations contre les violences policières qui mobilisaient beaucoup de jeunes dans Paris ces dernières semaines. Il a posté une photo, David Belliard, de lui, donc avec Assa Traoré. Avec ce commentaire, elle fait preuve d'un courage admirable dans son combat pour la justice et contre les violences policières. Est-ce que vous auriez pu faire de même?
Non, je ne serais pas allée à cette manifestation parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et je trouve que d'utiliser la mort de George Floyd pour en faire un amalgame sur les violences policières me gêne. Je ne nie pas qu'il peut y avoir du racisme, que ce racisme, il peut s'exprimer partout dans la société, y compris dans la police, parce que la police est le reflet de la société, elle est diverse.
Pas plus, mais moins qu'ailleurs.
Pas plus, pas moins qu'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les policiers, qui sont le garant de l'état de droit, doivent avoir notre respect après tout ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Donc, voilà, je n'aime pas l'amalgame. Par contre, puisque vous me parlez de quelqu'un qui s'est très mal comporté, je voudrais revenir sur la collaboratrice du maire du 2e arrondissement. Madame, je crois, Benomar.
Vous avez 30 secondes, Agnès Buzyn, pardon.
30 secondes, voilà. Elle a tenu des propos en demandant que les soignants à l'hôpital ne soignent pas les policiers blessés, c'est-à-dire un appel à non-assistance à personne à danger. J'aimerais savoir si Madame Hidalgo a prévu des sanctions et se séparer de cette collaboratrice qui est payée par la mairie de Paris.
Merci beaucoup, Agnès Buzyn. Merci. Si vous n'êtes pas élue dimanche soir maire de Paris, vous savez ce que vous faites?
Je suis au Conseil de Paris, je mène l'opposition. Et je serai très présente pour défendre ma ville et les valeurs républicaines.
Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.